Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Philippe Solers, qui publie Les Voyageurs du Temps, chez Gallimard. L'avenir se pose tout entier au présent du passé futur. On s'empare des siècles à travers le verbe. On voyage dans l'espace libre pour le jeu du temps. C'est fou, raisonnable, drôle, grandiose, explosif, splendide. Je ne sais pas si vous lisez les journaux, Philippe Solers.
Ah ben mais... oui, tout le temps.
Vous avez dû voir alors dans le dernier numéro d'Art Presse que Jacques Henric faisait un lien entre Drame, ce livre de 1965, qui est en fait votre troisième livre après Une curieuse solitude et Le parc, et le roman qui paraît aujourd'hui chez Gallimard, Les Voyageurs du Temps.
Ça m'a beaucoup frappé qu'il dise ça, parce que c'est l'année 1965 où l'on s'est connu, et où Jacques Henric, à l'époque, écrivait dans un magazine communiste qui s'appelait France Nouvelle. Je lisais ses articles, il y avait quelques communistes, même plusieurs, même pas mal de communistes qui commençaient à trouver que le carcan suffisait comme ça. Et on s'est connu à partir de cet article. Là-dessus, mais j'ai eu la très très bonne idée d'encourager tous ces garçons qui débutaient dans la vie avec des convictions littéraires profondes, que la suite a prouvé d'ailleurs, à quitter ce parti qui était encore très puissant. Alors c'est très intéressant parce que c'est le livre aussi dont je suis c'est le premier dont je suis vraiment content, comme on dit, et sur lequel Barthes, à l'époque, a écrit une série de textes très impressionnants.
Vous avez repris.
Oui, mais comme vous savez, Barthes, vous allez avoir une actualité considérable dans les jours qui viennent.
Et alors, justement, à propos de cette actualité Barthes, qu'est-ce que vous pensez de la polémique ?
Il y a mille choses à dire, oui. Oh oui, c'est le pauvre François Val qui s'est réveillé brusquement.
Votre ancien voisin de tel quel, non ?
Oui, c'est ça. Enfin, il nous surveillait. Évidemment, il ne voyait rien passer, mais il se croyait extra-lucide. Oui. Oh, tout ça est pénible. Oh, pauvre François Val. Alors qu'il a publié, après la mort de Barthes, les textes les plus intimes que Barthes aurait probablement, et même presque sûrement, refusé de publier lui-même, il se plaint du fait qu'on publie maintenant les carnets de voyage en Chine, qui sont d'ailleurs assez ennuyeux, et le journal de deuil après la mort de sa mère, qui est d'ailleurs un livre très extrêmement émouvant. Mais donc je ne sais pas ce qu'il vient faire là, tout à coup, à se plaindre, comme quoi il aurait été l'éditeur de Barthes. Mais comme chacun peut le vérifier dans sa bibliothèque, tous les livres importants de Barthes sont édités dans la collection telle quelle dont j'étais directeur. Enfin voilà, ça a provoqué beaucoup, beaucoup de polémiques à l'époque, notamment avec le journal Le Monde, qui d'ailleurs est en train de revenir en arrière. Donc vous voyez, 40 ans en arrière d'un coup, c'était l'époque où Barthes était vilipendé par M. Picard, dont personne ne se souvient, bien entendu, mais très soutenu par Le Monde, journal institutionnel qui sait déceler là où il faut frapper lorsque quelque chose est dérangeant. Par exemple, un article qui a été écrit tout récemment sur les voyageurs du temps par une mère de famille provinciale et qui, visiblement, n'a rien compris. Mais il y a là quelque chose d'inquiétant, parce que c'est une régression sur le plan intellectuel et c'est une régression partout dans la situation où nous sommes.
Alors, sans régression, mais en revenant un petit peu en arrière, c'est-à-dire à cette remarque faite par Jacques Henrich dans le dernier numéro d'Art Presse, vous pensez que c'est bien vu, qu'il n'y a pas de rupture de ligne entre drame et les voyageurs du temps, contrairement à ce qu'on répète sans arrêt, puisque...
Oui, parce qu'Henrich a compris, il écrit lui-même, il est sensible à la lecture, il a des intérêts multiples, mais il a bien compris que c'était la même voix intérieure qui parlait. Et si on ne part pas de l'intérieur, c'est-à-dire de l'écoute pour lire, eh bien évidemment on est baladé dans des images qui sont tout à fait fausses. On ouvre un livre, il faut être sensible à ce que ça suppose d'expérience concentrée intérieure. Et évidemment c'est une voix qui vous parle. S'il n'y a pas de voix, il n'y a rien.
Pas de changement de cap ?
Non.
À partir de femmes, par exemple, comme on le dit.
Des changements de cap en marine, il y a toujours des changements de cap. C'est de la navigation au long cours.
Le voyageur reste le même.
Le voyageur reste le même.
Mais ce sont les temps qui changent.
Oui, non, c'est tout simplement qu'on n'est pas du tout dans les mêmes époques, dans les mêmes détroits, dans les mêmes courants, dans les mêmes contre-courants, avec les mêmes vents, et au large du Pacifique ou de l'Atlantique ou ailleurs, ou alors dans l'espace, où vous voulez. Non, je crois que c'est le problème, c'est de rester le même lorsque tout est en mutation.
Et le programme, lui, est constant.
Le problème toujours le même, c'est de résister par tous les moyens au poids de la société qui veut vous embrigader, vous étiqueter, vous faire marcher en rang, être ensemble, que vous soyez social et que vous soyez dans le réalisme social et dans le naturalisme social, etc. etc., etc. Donc c'est un problème de curiosité. Il y a un seul moyen, en fait, et ça, Henrich l'a pointé, de résister à tout, c'est d'être absolument immergé dans la poésie. Et ce livre, je crois, le montre.
C'est-à-dire de s'ouvrir au commencement.
Exact. C'est-à-dire d'être surtout dans une certaine approche, encore une fois, très intérieure du langage. Et donc, c'est ce que Barthes disait de drame, c'était ça. C'était une sorte d'éveil. C'était pour lui un livre d'éveil. Un éveil à l'état naissant. Un éveil qui durerait. Hein, c'est très intéressant. Et il parlait du corps, justement, à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est qu'un corps qui soit en état d'éveil ? Eh bien, c'est ça, l'état poétique même. Et c'est pour cela que la poésie va si mal, puisque tout le monde dort, que tout le monde somnambulise et que tout le monde est résigné à marcher d'un point à un autre en voyant des images de télévision ou de fausses images de soi. Donc la poésie, je la saisis là où elle peut germer. Exemple, la grande aventure surréaliste, c'est-à-dire que si vous êtes en 1928, vous avez un livre qui s'appelle Nadjar d'André Breton, hein, et pour la première fois, vous voyez la poésie descendre dans la rue et faire surgir le temps dans la rue. Et ça, c'est un livre admirable. Vous avez aussi Le paysan de Paris, l'Aragon, etc. Tous ces livres sont oubliés. C'est le contraire du réalisme, puisque ça s'est appelé surréalisme. Eh bien, c'est de cela que plus personne ne veut. Pourquoi ? Parce que c'est l'éveil, la dérive, la psychogéographie, comme on dit les situationnistes. Et il faut se mettre dans un certain état. Et à ce moment-là, tout vous parle, y compris toutes les œuvres du passé, les grandes œuvres du passé, que ce soit Dante et surtout dans ce livre-ci, Lautréamont et Rimbaud.
Et alors justement, avec ce livre-ci, Philippe Soler, ça ne peut pas nier que le mot « roman » figure,
oui, je sais, ça
sur
aussi,
la couverture.
Ça. Mais oui, mais bien sûr que si, que c'est un roman.
Et alors, justement, on va en parler, parce que vous évoquez les réalistes, André Breton. André Breton déteste,
oui,
détestait les romans.
Oui, mais non, oui, il détestait les romans au sens où c'était du temps perdu pour lui et qu'il fallait aller dans le vif du sujet. Je ne partage pas l'opinion de Breton sur le roman, parce qu'en fait, il s'insurge contre, vous savez, la description. Il dit, j'en ai marre de savoir quelle est la couleur du papier dans la chambre, de ce qu'il y a sur les murs, etc. Enfin, la description, c'est-à-dire la résignation à un réel imposé de l'extérieur. Mais maintenant, les choses ont beaucoup changé depuis. Quand vous entendez entendez cette lancinante répétition du fait que ce livre n'est pas un roman, alors que c'en est un, au contraire, au vif du sujet.
C'est écrit sur la couverture.
C'est écrit sur la couverture, mais c'est le marché qui parle à travers ce reproche. C'est le marché qui doit définir maintenant ce qu'est un roman. Or, je vais vous dire ce que le marché pense du roman. Moi, je suis contre ce marketing effréné dit du roman. Eh bien, le roman, c'est le roman à l'anglo-saxonne que vous ouvrez pour voir un film. Et à ce moment-là, vous pouvez raconter le roman, etc. Vous serez fort en peine de raconter ce livre qui n'est pas dans le réalisme voulu, mais qui n'en est pas moins un roman, car qu'y a-t-il de plus romanesque que la vie des surréalistes, que la vie de Hölderlin à Bordeaux, que la vie de Rimbaud, que la vie de Lautréamont minutieusement étudiée, en fonction de ce qu'ils ont écrit, de la façon qu'ils ont eu de résister à tout pour l'écrire, c'est éminemment romanesque. Mmh. Voilà, c'est tout.
Non seulement c'est un roman, mais c'est même un roman qui pourrait,
il y en a plein,
tout, être dédié à André Breton.
Absolument, mais c'est provocateur, là, ce que je dis. Et je le fais exprès. C'est-à-dire, je pense que plus personne, je le vérifie tous les jours, plus personne ne sait qui est André Breton. Hein? Alors, c'est une occultation du marché, c'est une occultation politique, c'est une occultation poétique, et c'est vraiment l'espèce de totalitarisme du marché qui veut éliminer autant que possible tout ce qui peut se rapprocher de la pointe vive de la poésie. Mmh. Alors, bien entendu, il y a des tas de livres de poèmes qui paraissent, que c'est pas la peine puisqu'ils disparaissent presque aussitôt. Il faut inscrire la poésie dans le roman. C'est ce que je fais d'ailleurs depuis un certain nombre de livres.
Mmh. C'est-à-dire la poésie dans le roman, mais pas le roman dans une forme.
Si, un roman, je peux vous lire pendant une heure, la vie de Hölderlin à Bordeaux, les voyages de Rimbaud, la vie extraordinaire de la conception de la guérilla de Lorenz, les passages que j'ai tirés de la vie de Kafka qui sont absolument méconnus. Il faut que chaque approche de situation concrète de ces gens qui ont vécu, c'est pour ça qu'ils se sont les voyageurs du temps, T majuscule, hein, pas le temps de l'actualité de la communication, c'est passionnant. D'abord, ce qui leur est arrivé, c'est la même chose pour la musique que pour Jean-Sébastien Bach ou pour Johnny, le grand, grand, grand Johnny Dodds que nous venons d'entendre, oui, et dont j'ai toujours rêvé d'être, en quelque sorte, l'imitateur médiocre à la clarinette. Voilà.
Alors, le roman, pour vous, aujourd'hui, Philippe Soler...
Il faut dire que moi, j'invente du roman qui n'est pas selon les critères du marché.
C'est-à-dire que c'est pas...
Alors, quand je vois...
C'est pas de la fiction.
Mais si, parce que c'est mélangé. Vous comprenez, le narrateur fait une certaine expérience. Il se trouve dans un centre de tir. Il a une aventure avec une fille qui se trouve là, qui elle-même dans les services de contre-espionnage ou d'espionnage, etc. Et c'est un roman, puisque après ça, on découvre qu'il y a quelque chose qui se passe derrière les salles paroissiales du 7e arrondissement. Mon problème était le suivant.
Il fréquente les mêmes quartiers que vous, hein, le narrateur.
Oui, mais quand même, c'est à la... C'est... Oui, mais qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Voilà, c'est comme ça que commence Nadja de Breton. Hein. Qui suis-je ? Si je m'en rapporte à un vieil adage, ça veut dire qui je hante. Donc il faut se mettre dans une situation de hantise. Hein. Voilà, je hante le 7e arrondissement, parce que je ne pouvais pas reprendre le boulevard Bonne Nouvelle de Breton, je ne pouvais pas reprendre les buts de Chaumont d'Aragon, je ne pouvais pas reprendre Meudon de Céline, je pouvais ou Montmartre. En revanche, le 7e arrondissement n'a jamais été décrit, d'après moi, avec autant de précision. Alors, on apprend beaucoup de choses sur le 7e arrondissement, à commencer par le fait de savoir ce qui se passe en fait aux éditions Gallimard. Donc, c'est un roman, vous avez le mot roman sur la couverture, et en dessous, vous avez Gallimard NRF. Hein, voilà. Donc là, qui connaît mieux que moi ? Alors, on peut vérifier si j'ai vraiment fait une enquête romanesque, les coins perdus de cette grande maison qui traverse le siècle sans danger et qui comporte des souterrains secrets qui vont l'un jusqu'au quai Voltaire, l'autre jusqu'à Saint-Germain-des-Prés. Vous savez que ce lieu est hanté. Il faut se mettre en état de hantise. Rien de plus romanesque que la hantise. Ce ne sont pas des fantômes, ce sont de grands vivants. Il y a tout le monde là. Hein, et c'est nous qui sommes moins vivants qu'eux. Donc, ce n'est pas des fantômes. Vous savez, Marcel Proust, Céline, Proust, et Breton, et tout le monde est là. Hein, ça s'appelle la Pléiade, il y a un petit endroit pas délicieux. Voilà, c'est encore un des seuls endroits, ce que j'appelle la cité des livres, c'est un peu quoi. Hein, pour quand même, et les caves du Vatican, c'est Gallimard, les caves de Gallimard, où il y a on sait combien de secrets, de lettres inédites, etc. C'est l'archive, c'est le temps lui-même accumulé, c'est le temps perdu ailleurs, et c'est le temps retrouvé là.
Comme quoi, le,
c'est pas un roman, ça.
La main droite du narrateur ressemble à la main droite de l'auteur.
Oui, et il faut aussi qu'il y ait beaucoup d'inspiration de la main gauche qui se tait pendant tout ce temps-là.
Mais qui assure la mélodie.
Écoutez, il faut que les mots soient à leur place et qu'on entende que c'est de la musique avant tout.
Voilà. Alors justement, le roman, aujourd'hui, pour vous, c'est de la musique.
Ça s'écoute. C'est une voix.
C'est de la pensée en musique.
Mais bien sûr. Et c'est pour cela que ça s'oppose vivement à la notion marketing du roman anglo-saxon, encore une fois, à savoir que c'est formaté en image et que c'est fait pour faire de l'image, pour faire un film. Ça, c'est Francfort, vous savez, business. C'est-à-dire un roman, c'est quelqu'un, c'est quelque chose, c'est un auteur qui persiste, en général américain, voilà, parce qu'ils sont formatés pour ça. Et ça doit donner un film, tout simplement. S'il n'y a pas de film, s'il n'y a pas de story en forme de film, donc je vous dis encore une fois que le faux roman, c'est que ça consiste à ouvrir un livre pour voir un film. Le vrai roman, c'est ce que moi j'écris, c'est-à-dire qu'il faut écouter. Ça s'écoute. C'est-à-dire si ça ne s'écoute pas, eh ben, évidemment, on ne voit rien. Ou on croit voir et on voit faux. Ça s'écoute. Beckett a toujours dit ça, j'écris pour une voix. Il se trouve que je suis un peu éditeur quand même, j'ouvre des manuscrits, j'en reçois plein. C'est décidé dès les premières lignes. Il y a une voix qui continue. Il arrive que ça se casse la gueule, mais rarement. S'il y a une voix, c'est bon. Sinon, c'est du brouillage, c'est du truc d'actualité, du zapping télé, c'est du roman réaliste, un roman moelleux qu'on ne fait plus depuis le 19e siècle. Ça peut durer encore tant qu'on veut. Mais l'intérêt du marché est de perpétuer cette fausse monnaie. Vous comprenez ? Alors, il y a un test très facile à faire pour savoir distinguer la vraie monnaie de la fausse. Et le test, c'est la poésie. La poésie, ça doit s'écouter, sinon c'est pas la peine. Ça doit se réciter par cœur, sinon c'est pas la peine. Ça doit trouver donc des rythmes instinctifs qui répondent à un corps vivant, sinon c'est pas la peine. Et que tous les sens soient convoqués à la fois. C'est-à-dire la vue, l'ouïe, le toucher. Il n'y a rien de plus érotique que la poésie. Si vous voulez que je vous le prouve, je vous récite du Baudelaire, je continue, et ça sera tout à fait audible. Il faut que ça parle, il faut que ça rythme, il faut que ça joue, il faut que ça soit entendu en musique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui arrive ? Tout le monde est sourd, personne n'entend. Vous avez lu un roman, vous l'avez... J'ai inventé un mot que j'aime bien, c'est quand on me dit « je vous ai lu », alors « oui, lu », lire. Lire, c'est ça l'aventure romanesque d'aujourd'hui. Qui sait encore lire ? Hein ? Alors j'ai inventé le verbe « oublier ». Alors est-ce que vous m'avez oublu ? Hein, c'est-à-dire, vous savez, c'est très clair, la mémoire est en danger, neurologiquement en danger, la capacité de lecture est en danger. Je suis éditeur, je sais de quoi je parle un peu quand même, hein, très en danger. Donc, les morts sont très en danger, ils sont beaucoup plus vivants que les morts vivants qui circulent aujourd'hui. Donc, c'est le temps lui-même est très en danger, parce que tout est présent dans la communication, alors qu'il y a une archive énorme, c'est de ça que je m'occupe. Faire vivre, ressusciter, d'ailleurs c'est le thème profond du livre, puisqu'il est question de la gnose à un moment donné. Évidemment, si je parle de la gnose, personne ne sait ce que c'est, n'a jamais entendu parler d'un Richard Le Puech, et même ne sait même pas ce que veut dire le mot gnose. C'est très simple, ça veut dire connaissance, une connaissance qui touche à la naissance, à la mort, etc., et au temps. Il y a un livre magnifique à lire de ce génie qui était Puech, professeur au Collège de France, qui s'appelle « La gnose et le temps ». Voilà. Tous ces manuscrits ont été enterrés au début de l'ère que nous vivons, au 4e, 5e siècle, découverts en Égypte et sortis de terre, et ont provoqué une émotion considérable, comme les manuscrits de la mer morte de Qumran, ou comme quand on a découvert la grotte de Lascaux. Qu'est-ce qui est plus extraordinaire que d'avoir accès, et romanesque, que d'avoir accès à cette archive vivante et de la ressusciter. Un qui a compris ça admirablement, mais alors tout le monde se presse à son exposition qui a un succès fou. Quand je parle de l'autre monde, Rimbaud, tu vois, personne n'écoute. Hein. Mais si je dis Picasso, ah là, ça a beaucoup de succès, cette exposition Picasso. Ça s'appelle Picasso et ses maîtres. Qu'est-ce qu'il a fait Picasso toute sa vie, hein? Grand voyageur du temps, s'il en fut. Mais il a parcouru toute l'étendue de l'histoire de la peinture avec une aisance, une rapidité et un génie incomparable. Voilà. Personne n'aime vraiment Picasso, mais tout le monde est forcé au respect parce que c'est un rapport de force, oui. Picasso. Ça ne plaît pas aux Américains, la dernière partie de sa vie, n'est-ce pas? Moi, j'ai écrit un livre sur Picasso, quelqu'un à Francfort l'a parcouru vaguement, c'est une agente américaine, elle a dit tout de suite, old fashioned, Picasso old fashioned. Alors, écoutez, si on a une alarme, mais à Paris, vous avez vu le tabac que ça fait. Qui est Picasso? Un grand, grand voyageur du temps, j'en parle d'ailleurs.
Il y a trois peintres... Oui. Voyageur du temps dans votre livre, Philippe Seller, c'est Picasso, Goya et Watteau.
Oui. Eh bien, je crois qu'en effet, ce sont le choix me paraît extraordinairement intéressant. Pourquoi, par exemple, Claudel et Breton, qui se vouaient, en tout cas Breton, pour Claudel, une haine mortelle. Pas question d'accepter Claudel, falsificateur de Rimbaud, et alors de la dire, il y a une polémique. Bon, sur quoi se retrouve-t-il? Encore faut-il passer ça au peigne fin et au laboratoire? Il se retrouve sur Watteau. Comme c'est étrange. L'indifférent de Watteau, les fêtes galantes de Watteau, le fait que Watteau, c'est de la nacre, que Watteau, c'est une perle, donc c'est très rare, hein, Watteau, hein, très rare. Et alors, Goya, c'est encore mieux. Est-ce que c'est pas romanesque, ce qui se passe pour le vieux Goya, sourd, qui est en proie des délires, de cruauté que vous voyez dans ces tableaux? Quand vous voyez ce tableau admirable qui s'appelle La laitière de Bordeaux, est-ce que c'est pas romanesque de raconter pourquoi ça s'appelle comme ça? Pourquoi une jeune femme brune venait, comme toutes les paysannes des environs de Bordeaux, apporter leur lait le matin dans des sortes de petits pots, etc. Eh bien, voyez-vous, Goya, c'est une des grandes, grandes consolations de la fin de sa vie. Il voyait arriver le matin, tôt, une paysanne brune, absolument ravissante, une sorte de vierge qui portait son petit ciboire de lait. Et elle portait ça au vieux Goya. Mon Dieu, quelle consolation pour ces derniers moments si difficiles. Et puis il y a Montaigne, et puis il y a... il y a Picasso. Enfin, écoutez, toutes ces vies sont romanesques, je les ramasse. Bon, je ne vais pas écrire des biographies, je les ramasse. Qu'est-ce qu'il y a de plus émouvant, plus romanesque que Rimbaud marchant à travers l'Europe, hein, voilà, par exemple. Voilà. Ou, encore une fois, ou que Hölderlin à Bordeaux. Si les livres ne sont pas lus, ça m'est égal. Ils sont tout blus, on les parcourt. Mais enfin, tout ce qui a trait à Hölderlin à Bordeaux, si ce n'est pas romanesque, alors qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, il y a les peintres, voyageurs du temps, mais il y a aussi les musiciens. Johnny Dodds, qu'on a entendu tout à l'heure.
Johnny Dodds et Bach.
Mais Bach et Mozart, quand même.
Mozart, mais peu, parce que j'écris tout un livre sur Mozart, mais là, je voulais rendre hommage surtout aux interprétations de Glenn Gould, que j'écoute alors avec beaucoup, beaucoup d'attention. Je peux mettre ça en boucle. Pourquoi? Gould est le premier voyageur du temps, émérite, parce que alors, pour sortir Bach comme ça, il faut le faire, parce que ça a des siècles. Hein, bon. Qu'est-ce qu'il a senti? Qu'il fallait ne plus donner de concert. Le concert, c'est romantique, c'est 19e, c'est la salle de spectacle, etc. Mais qu'il fallait enregistrer, que l'enregistrement était devenu un impératif. Pourquoi? Parce que le temps, justement, n'est plus le même. Alors que dans le concert, vous avez des effets, etc., et que tout se perd dans une sorte d'espace peu contrôlé, si vous enregistrez, vous pouvez corriger la fraction de seconde. Vous pouvez reprendre et reprendre et reprendre. C'est pour ça que ces enregistrements sont absolument fabuleux. Il y a un dialogue avec Yehudi Menuhin. Ils viennent de jouer ensemble une sonate de Bartok, assez mal d'ailleurs, parce que ça ne leur plaît pas. Ça ne plaît pas à Gould, visiblement. Et Menuhin reproche à Gould de ne plus faire de concert. Et Gould lui dit, mais mon cher ami, vous vous trompez d'époque. C'est fini, les concerts. Ça n'a plus aucun intérêt. Martha Argerich, qui est une grande pianiste aussi, refuse les concerts. Et ne fait pas assez d'enregistrements. Mais lui, il a compris. Regardez les admirables. Enfin, ça a été filmé. Il a le menton sur les touches. Il est dans une concentration d'écoute absolument extraordinaire. Et la musique, c'est quoi? C'est l'art du temps, bien sûr. Donc, vous ne comprenez pas qu'on est dans une mutation technique. Et nous sommes dans cette mutation technique, justement, que j'aborde, parce que je suis le romancier de cette mutation technique. On s'en apercevra peut-être ou jamais, ça n'a aucune importance. Alors que les romanciers se traînent dans le cinoche. Et dans la, c'est extraordinaire, ils veulent tous faire du cinéma. Vous avez vu Houellebecq, etc. Ça donne des résultats catastrophiques, bien entendu. C'est une technique, le cinéma, il faut savoir faire. Je ne vais pas me mettre à faire des films, ni à faire de la peinture. Je ne saurais pas le faire, mais je sais faire.
Faire du piano?
Comment?
Du piano?
Oui, un peu comme ça, mais en amateur, ça ne compte pas. Mais le fait que Gould dit ça à Menuhin est formidable, parce qu'il attaque toute une époque, toute une représentation romantico du musicien qui donne un concert. Alors, qu'est-ce qui est plus spectacle que les grands concerts? Alors que là, nous sommes dans... il parle du studio d'enregistrement comme une sorte de matrice, là, comme un embryon, enfin, très, 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 très spécial. Et voilà, ça, c'est fait pour être vraiment écouté, et non pas abruti. Donc il faut être éveillé pour écouter. Donc il faut être en état de connaissance. J'adore les livres qui m'apportent des connaissances.
C'est la connaissance que vous recherchez, Philippe Solers, ou le moyen de vivre le maintenant?
Oui, parce que ce n'est pas la connaissance au sens philosophique.
Ce n'est pas la culture.
Ce n'est pas non plus la culture. Mais non, bien sûr, parce que la culture, il y a l'affairement, il y a l'animation culturelle. Ce n'est pas le problème. Le problème, en effet, c'est d'être vivant. C'est donc d'être à pic sur la mort, voilà, autant que possible. Et la grande poésie, c'est ça, c'est rien d'autre. Ça peut se démontrer facilement.
L'intensité?
C'est l'intensité dans la connaissance, oui, c'est ça. La littérature et l'art en général, c'est pour ça qu'il y a musiciens, peintres, mais surtout les poètes, est une aventure absolument extraordinaire qui traverse le temps. Si je vous prends Dante... Aujourd'hui, je suis un des rares Français que ça intéresse. Je peux...
Avec Jacqueline Risset.
Avec mon ami Jacqueline Risset qui a traduit. Voilà, quand on dit du mal de tel quel, il faudra dire, ils ont quand même fait la première traduction lisible de Dante. Mais c'est pas rien. Mais cela dit, je dis Dante. Aujourd'hui, ça ne dit rien à personne, alors que c'est d'une fraîcheur, d'une actualité, j'allais dire. Absolument, absolument merveilleuse. Donc, je peux, par exemple... me réciter, il y a un passage où je suis dans l'église Saint-Thomas d'Aquin, à Paris. Je ne sais pas si vous y êtes jamais rentré, probablement pas. C'est une église qui est assez laide, comme toutes les églises françaises. Les églises sont belles en Italie, et quand on va en voir une avec la peinture extraordinaire dedans, on va en Italie, point. Donc, c'est une église assez sinistre, dans ce quartier, justement, où il y a, d'un côté, un centre de la Défense nationale. Des salles paroissiales.
On peut faire de drôles de rencontres.
On peut faire des curieuses rencontres. C'est le personnage féminin qui est là, qui est à mon avis très réussi, mais ce qui gêne tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que je dis que c'est un garçon réussi. Alors j'ai souligné réussi. Tout le monde, vous avez une femme qui était un garçon manqué. Non, pas manqué, réussi. Voilà. Donc c'est un personnage.
Et dans l'ensemble, vous aimez bien les garçons.
J'aime plutôt les femmes qui arrivent à être des garçons réussis. Et c'est ce qui choque très fort les mères de famille, là, d'accord ? Surtout quand elles vivent en province. Donc, pour revenir à ce que je disais, l'église Saint-Thomas d'Aquin, tout à coup, elle s'appelle Saint-Thomas d'Aquin. Bon, Saint-Thomas d'Aquin, c'est qui ? Oh, je sais pas, moi, c'est comme la rue machin. C'est comme la rue de Lille, vous avez des plaques. J'allais souvent voir Lacan au 5, mais un peu plus loin, il y a Max Ernst qui est là. Bon. Alors, tout ce quartier se met à vibrer. Pourquoi ? Parce que dans l'église Saint-Thomas d'Aquin, ça me fait penser à Dante. Parce que dans le paradis de Dante, il y a un Saint-Thomas d'Aquin. Alors, il y a un passage absolument sublime que je me récite. Et là, je vois à quel point de misère nous sommes, parce qu'il est évident que Dieu est mort, que tout ça n'a plus aucun sens, que le paradis, ce n'est plus rien pour personne. Mais figurez-vous que moi, ça m'intéresse parce que ça a eu lieu, bel et bien. Alors, Dieu a eu lieu, il faut donc regarder ce que ça a donné. Bon, je vous dis, pour moi, c'est l'Italie. Et puis, le paradis de Dante, eh bien, il a eu lieu. Ce type a vécu au paradis. Et il vous dit pourquoi ça fonctionne. En général, les gens préfèrent l'enfer, ils trouvent ça plus intéressant. Chacun ses goûts.
Oui. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est l'être. Et l'aventure, c'est ça. L'aventure,
vous savez,
c'est l'être.
Le temps et l'être, il y a quand même des gros livres qui se sont écrits là-dessus.
Oui.
Pour ne citer le nom d'un criminel coupable qui sera en général censuré dans des articles de philosophes, c'est Martin Heidegger. Ça s'appelle « Être et temps », puis après « Temps et être ». Bon, alors, il y a celui qui peut distinguer l'être du temps, ben, nous expliquera en quoi ça consiste. Mais alors ça, je ne fais pas de philosophie. Le temps...
Vous pensez, mais vous ne faites pas de philosophie.
Oui, c'est la raison pour laquelle je pense, d'ailleurs, je crois. C'est parce que je ne fais pas de philosophie. Je fais quelque chose qui est tout à fait autre. Et parce que les ouvrages de philosophes sont très ennuyeux. Vous savez, c'est toujours l'histoire des intellectuels, en France surtout, qui doivent dire le bien, le mal, se mêler, alors ça n'arrête pas, ils vont de rebond en rebond, de chronique en chronique. Tout ça, c'est ce que j'appelle, à la suite de Nietzsche, la moraline. Hein, c'est la moraline à longueur de temps. J'ai écrit quand même tout un livre sur Nietzsche, je crois que nous en avons parlé ensemble. Et que, alors, je suis là, oui, mais c'est déjà plus un philosophe du tout. C'est autre chose. C'est un philosophe artiste, a-t-on dit, comme ça, une formule creuse. C'est une expérience profonde. Il y a rien de plus romanesque que la vie de Nietzsche, par exemple. On dit, une vie divine, c'est encore pas un roman. Mais qu'y a-t-il de plus romanesque ? Je le démontre, parce que personne n'a étudié la biographie de Nietzsche avec autant de précision. Donc c'est vraiment... Qu'est-ce qui se passe ? C'est la haine de la connaissance, qui est la même chose que la haine de la poésie. La haine est là lorsque, par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes, crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié. Ah, que n'ai-je mis bas tout un nœud de vipère, etc. Vous connaissez, c'est un poème absolument extraordinaire du plus grand poète français, Charles Baudelaire. Mais Baudelaire, c'est pas du tout à la mode, figurez-vous.
Alors, vous parlez de l'être et du temps.
Oui.
Faudrait peut-être ajouter le néant.
Et pour le néant... Celui qui peut distinguer l'être du néant va nous expliquer ça. Oui, c'est ça. Ah.
Alors justement,
je préfère la. Vous savez, pourquoi le livre aurait pu être dédié à Breton ? Pour la raison suivante, c'est qu'il a fini d'abord par parler de la gnose lui-même, d'une façon très pénétrante. C'est dans ses derniers textes. Deuxièmement, c'est l'expérience poétique. Hein. Dieu sait qu'il l'avait, quand même. C'est lui, avec Aragon, qui a été déniché les poésies de l'entrée à mort à la Bibliothèque nationale, dont personne ne s'était jamais occupé, quant à Rimbaud, etc., affaire à suivre. Mais il dit, à la fin de sa vie, je trouve ça très émouvant. Il y a trois choses que j'ai maintenues dans mon existence, je crois. C'est l'amour, la poésie et la liberté. Vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez. La liberté, l'amour, la poésie, la liberté, la poésie, l'amour, la liberté. Et je le crois, dit-il avec sa modestie, parce qu'il était quelqu'un de modeste, ne pas avoir démérité de ces trois, de ces trois choses. L'amour, la liberté, la poésie. Eh bien alors, vous ne trouvez pas que c'est beau comme c'est mieux que fausse liberté, pseudo-égalité et pas de fraternité.
C'est un peu nouveau, non, l'intérêt que vous manifestez pour Breton ?
Oui, parce qu'il y a eu des polémiques autrefois et je les ai regrettées. D'ailleurs, j'ai mis ça au point dans un journal. Enfin, bon, je trouve que toute attitude négative à l'égard de Breton est bizarre. parce que, à cause des trois mots que je viens de prononcer. Ce sont des gens qui ont visiblement des embarras, un, avec l'amour, deux, avec la liberté, trois, avec la poésie. Eh bien, voilà, c'est un livre qui peut être dédié à Breton, à cause de ces trois mots-là.
Il y a un autre voyageur du temps qu'on ne rencontre pas couramment dans vos écrits, Philippe Solers, vous le citiez tout à l'heure, c'est Franz Kafka.
Oh, mais c'est Kafka, il intervient en premier. Dans le livre.
Oui.
Parce que je montre que Kafka, là aussi, est recouvert par toute une légende. Je montre des choses, enfin, là, qui sont. Est-ce que c'est pas romanesque de montrer comment Kafka, dans ses notes de la fin de sa vie, il est mourant. S'intéresse avec une précision extrême aux fleurs qui sont à côté de son lit, en disant il laisse des mots écrits. Il faut déplacer telle ou telle fleur qui prend la lumière. Voilà, ça le conduit à dire à son médecin cette chose absolument extraordinaire, parce qu'il souffre, si vous ne me tuez pas, vous êtes un assassin.
Avant de s'appeler Les Voyageurs du Temps, votre livre, confiez-vous, devait s'appeler Le Sujet.
Et c'est un titre que je traîne et que je n'arrive jamais à réaliser. Je vais peut-être le faire un jour. C'est Le Sujet, parce que le mot me plaît, parce que c'est à quel sujet, oui, et puis le sujet, c'est quand même jeu est un autre, etc., et tout le jeu qu'on peut faire avec ce jeu qui n'est pas le moi. Tout ça n'est pas moi, c'est autre chose.
Alors, je voudrais juste qu'on dise un mot d'un autre livre signé Philippe Solers, mais qui n'a pas à proprement parler été écrit par Philippe Solers. C'est une suite d'aphorismes.
Ça, c'est tout
et
à
de
fait.
Pensées choisies.
Je vous raconte l'histoire. C'est assez romanesque, d'ailleurs.
Grand beau temps, ça s'appelle.
Grand beau temps, c'est un...
C'est vous,
un...
le titre ?
Non, c'est de lui. C'est le type qui s'est mis dans la tête bénévolement, comme vous croyez. Il habite à Rouen, il a 28 ans, je crois. Et tout à coup, ça l'a amusé de faire un recueil. Alors, c'est extraordinaire. Ça n'est pas un commercial. Deux, c'est vraiment sincère de sa part et très bien choisi d'après moi. Trois, c'est un livre de lui qu'il a appelé Grand Beau Temps. Voilà, j'étais en train de travailler sur Les Voyageurs du Temps, vous voyez. Il y a un temps pour tout lorsqu'on se met dans le beau du temps.
C'est un livre entièrement citationnel.
C'est un livre qui est fait à partir des choses qu'il a repérées dans mes livres. Et vraiment, ça. Alors, lui, il ne m'a pas oublié. Il m'a lu.
Et vous, quand vous le lisez, ça apprend beaucoup de choses.
Ça me paraît pas mal parfois. Ouais. Ça me paraît tout à fait différent de ce que, en tout cas, de. Oui, c'est parce qu'il zigzague. Il tire ce qui lui plaît. Le meilleur aphorisme, c'est celui de la page de couverture. Vous retournez le livre et vous allez voir ce que c'est. C'est le temps qu'on nous inflige n'est pas celui que je dis. Le temps qu'on nous inflige, monsieur, tous les jours. Qu'on inflige à la population générale, exploitée, surexploitée, fatiguée, résignée, et pour qu'il n'y aura pas un centime de plus, alors que l'escroquerie monétaire internationale est à son comble.
Le roman de Philippe Solers, Les Voyageurs du Temps, est publié chez Gallimard, et ce recueil d'aphorismes et de pensées choisies, Grand Beau Temps, est publié au Cherche Midi. Du jour au lendemain, Catherine Déréter, Angélique Thibault, Alain Weinstein. Bonsoir.